RPAFM Auvergne-Limousin, 100% plaisir.
On n'est pas des Einstein.
On n'est pas des Einstein.
Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur l'émission On n'est pas des Einstein, mais tout est relatif, c'est la 8e émission du mois de mai, déjà 8, ça passe vite le temps quand même, hein. Et puis à chaque fois on est content de vous retrouver. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que dans le studio, nous sommes trois, je suis en compagnie de deux scientifiques de l'Agence Spatiale Européenne, vous avez bien entendu, de l'Agence Spatiale Européenne, qui nous rendent visite aujourd'hui dans les locaux de Bort-les-Orgues, chez RBAFM, et aujourd'hui on va apprendre à les connaître, on va un petit peu décortiquer leur vie et savoir ce qu'ils font et ce que c'est que la vie d'un scientifique de l'Agence Spatiale Européenne. Donc on a tout d'abord Marine,
bonjour. Marine.
Et Florian, du coup,
bonjour.
Alors vous êtes tous les deux scientifiques à l'ESA, donc l'Agence Spatiale Européenne, et ma première question c'est: comment on arrive à l'ESA?
On commence par les questions difficiles tout de suite, c'est ça? comment on arrive à l'ESA? Je pense qu'il n'y a pas de, trajectoire prédéfinie. Il y a plein de, il y a plein de métiers à l'ESA. Il s'avère que moi, donc, je travaille effectivement dans le département scientifique, dans le directorat scientifique de l'ESA, et je travaille sur des missions scientifiques. Donc, j'ai pas le rôle d'une scientifique. Exactement. Moi, je suis en ce moment ingénieur et mon rôle, c'est de justement amener des projets scientifiques et d'accompagner la communauté scientifique et ce qu'on appelle des consortiums scientifiques, c'est-à-dire des groupes de scientifiques qui ont un projet, de les amener jusqu'à avoir ce projet-là concrétisé et dans l'espace. Généralement, c'est des processus qui sont extrêmement longs, qui prennent de l'ordre d'une quinzaine d'années. Et donc, moi, j'interviens vraiment au tout début de cette phase-là, ce qu'on appelle les avant-projets. Donc, c'est vraiment, on arrive avec un groupe de scientifiques qui est tout au début de son idée, qui vient de le formaliser correctement pour la première fois, qui est sélectionné pour rentrer dans les programmes de l'Agence Spatiale Européenne. Et on va préciser, essayer de converger avec eux sur quelque chose qui va pouvoir partir dans l'espace.
D'accord. Donc vraiment formaliser un projet, le donner, le concrétiser, donner un sens.
Exactement.
Pour qu'il puisse ensuite être fait. Alors, tu as un doctorat.
J'ai un doctorat.
Tu as un doctorat, donc tu es docteur. C'était quoi ton sujet de thèse? Parce qu'il faut passer, faut effectuer une thèse, hein, pour valider son doctorat.
Exactement.
Qu'est-ce que tu as fait, du coup?
Moi, j'ai travaillé sur les atmosphères d'exoplanètes et plus particulièrement à la préparation des traitements de données du télescope spatial James Webb qui a été envoyé pour Noël en 2021. Moi, j'ai terminé ma thèse. Avant ça, j'ai terminé ma thèse en 2020. Et donc, entre 2017 et 2020, j'ai préparé la communauté scientifique, ou plutôt, j'ai préparé des outils pour que la communauté scientifique soit prête à recevoir ces données du James Webb Space Telescope et qu'elle puisse traiter ces données, c'est-à-dire les analyser et arriver à découvrir et potentiellement à caractériser, c'est-à-dire à donner la composition d'atmosphères, d'exoplanètes, qui sont des planètes qui sont en dehors du système solaire.
En dehors du système, voilà, c'est ce que je voulais rajouter comme précision, merci. Donc en effet, les exoplanètes, on en a parlé un petit peu, même beaucoup là, dans les précédentes émissions, et donc tu as été en direct en contact avec des données. Enfin non, tu devais préparer plutôt à recevoir les données de ce fameux télescope, on en avait parlé dans les premières émissions. Florian, du coup, toi, tu es aussi à l'Agence Spatiale Européenne, et comment tu y es arrivé? Comment t'es arrivé à l'Agence Spatiale?
Alors moi, je suis arrivé à l'Agence spatiale européenne via les startups. Donc j'ai effectivement une formation de scientifique. J'ai commencé par un diplôme d'ingénieur et pendant mon diplôme d'ingénieur, j'ai découvert la propulsion des satellites. Et c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé et dans lequel il y a encore beaucoup de recherches à faire parce qu'on ne connaît pas tout. Et ça m'a amené à préparer un doctorat en physique des plasmas pour la propulsion des satellites, qui est une technologie qui a une trentaine d'années et qui est encore en plein développement. Et il se trouve qu'en France, on est plutôt bon dans ce domaine-là et que comme il y a plein de satellites qui cherchent de la propulsion électrique, les laboratoires ont créé des start-up. Les chercheurs des laboratoires sont partis dans les start-up pour vendre leurs propulseurs. Et j'ai beaucoup aimé cette dynamique de start-up parce que c'est beaucoup d'innovation. On va chercher la recherche, c'est hyper intéressant parce qu'on vient essayer de faire des choses qui n'ont jamais été faites avant. Mais on s'en fiche un peu de savoir si ça va servir à quelque chose tout de suite. On sait que ça va servir à quelque chose en général dans le futur parce que toutes les découvertes finissent toujours par donner des idées à quelqu'un. Mais là, on veut vraiment avoir un moteur qui va servir à un satellite et donc ça développe beaucoup d'innovation. Et moi, j'étais passionné par ce qui se passait dans ces startups, par cette capacité comme SpaceX il y a 15 ans aux États-Unis à développer de l'innovation, à faire des choses plus rapides, à faire des choses en prenant un peu plus de risques parce qu'on est des plus petites entreprises. Et donc j'ai travaillé pendant un an à l'issue de ma thèse dans une startup qui elle-même essayait de développer un nouveau produit pour le spatial. Et dans le cadre de ce travail-là, j'ai rencontré des gens de l'Agence spatiale européenne qui ont dit bah ça c'est super parce que nous à l'agence on cherche à aider ça parce qu'on sait très bien que quand il y a plus de start-up, bah il y a plus d'innovation, ça fait plus de compétition, la compétition quand c'est géré correctement, bah ça aide à faire baisser les prix, à faire des nouvelles idées, à faire des meilleurs projets. Et donc on a un département commercialisation à l'Agence spatiale européenne pour accompagner tout cet écosystème et j'ai postulé pour rejoindre ce département et c'est comme ça que j'ai rejoint l'Agence spatiale pour essayer d'aider l'écosystème de start-up et de d'anciennes start-up de l'Europe.
Très bien. Donc ça veut dire que si je comprends bien, l'Agence spatiale européenne favorise le développement d'une multitude de start-up. Alors pour rappel, une start-up c'est un peu comme une petite entreprise qui se développe, qui développe un produit pour ensuite le vendre.
Oui, une start-up par rapport aux issues à une PME, c'est en général quelque chose qui développe un nouveau produit dans un contexte très incertain. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont des chefs d'entreprise, qui ouvrent une boulangerie ou un marchand de fleurs, c'est assez peu incertain. On arrive assez bien à estimer le risque et donc du coup, on peut aller à sa banque, demander un emprunt, rembourser l'emprunt plus tard. Dans les start-up, c'est très incertain, on n'est pas sûr d'y arriver et du coup, c'est un autre monde, le monde des investisseurs privés, le monde de ces prises de risques. Et c'est en général des entreprises qui ont beaucoup d'ambition, qui veulent être les leaders mondiaux de demain, embaucher des centaines, voire des milliers de personnes. C'est un monde très particulier d'ambition et d'innovation.
Après, c'est jeune, c'est dynamique, ça apporte beaucoup de choses nouvelles, des nouveautés, de l'innovation, puisque au final, on crée des nouvelles choses, on n'est pas sûr si ça va marcher, mais on essaye, on y va à fond, quoi.
Oui.
D'accord. Alors, juste pour préciser, propulsion de satellite, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est la propulsion de la fusée depuis le sol ou est-ce que c'est la propulsion du satellite dans l'espace?
Alors là, effectivement, donc la fusée, elle se propulse pour aller dans l'espace. Une fois que la fusée elle-même est dans l'espace, elle va lâcher le satellite qui va aller sur son orbite où il va faire le tour de la Terre. Mais le satellite, une fois qu'il est là-haut, il a parfois besoin de se déplacer. Donc, de toute façon, il fait le tour de la Terre, mais s'il veut se déplacer, par exemple, pour aller vers une autre orbite ou pour éviter un débris ou pour remonter son orbite, il a besoin d'un moteur. Et donc, soit il y a historiquement, il y avait les mêmes moteurs que les fusées, mais juste en plus petit, ce qu'on appelle les moteurs chimiques qui brûlent du carburant. Et depuis une cinquantaine d'années, on développe progressivement les propulseurs électriques où c'est tout un autre phénomène. On va ioniser de la matière comme ce qui se passe dans les éclairs. Par exemple, on vient séparer les électrons, ça fait un peu de lumière, ça fait des gaz qui sont chargés électriquement. Et les gaz chargés électriquement, on peut les faire bouger avec des aimants, par exemple. Et c'est ce principe physique-là qu'on utilise pour venir accélérer des particules chargées en dehors du satellite. Et les lois de l'action et la réaction dit que si j'envoie des particules chargées dans un sens, bah mon satellite il va bouger dans l'autre. Et c'est le principe de comme ça qu'on se déplace dans l'espace en éjectant des particules d'un côté. Et donc au lieu d'éjecter des choses en les brûlant et en les accélérant comme on le fait sur des moteurs fusées, on va les ioniser et les accélérer avec des champs électriques. Ça consomme beaucoup moins de carburant, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant.
Et oui, parce que du coup on a zéro carburant, un minimum peut-être.
Alors il y a du carburant quand même parce qu'il faut ioniser un gaz. Donc en général c'est du xénon. SpaceX aujourd'hui utilise du krypton. Donc il y a quand même du carburant, mais comme on arrive à l'accélérer très très vite, on peut en utiliser beaucoup moins. Et donc, par exemple, on arrive à utiliser 50 ou 100 fois moins de carburant. Et quand on sait que le carburant, il faut d'abord l'emmener dans l'espace dans une fusée, ça fait beaucoup d'économies à la fin d'argent parce qu'on n'a pas à acheter une fusée plus grande et aussi de carburant pour les fusées elles-mêmes puisqu'elles n'ont pas besoin de transporter tout ce réservoir dans l'espace.
Une économie non négligeable, j'imagine. Alors, c'est comme dans l'atmosphère. Donc, ça se passe un peu comme dans l'atmosphère, c'est ça que tu disais? C'est-à-dire qu'on va ioniser des gaz et c'est un peu comme ce qui se passe dans un orage, c'est ce que tu disais. Est-ce que sur les exoplanètes qu'on découvre, est-ce qu'on peut détecter comme un orage sur Terre, mais sur une autre planète?
Alors,
est-ce que c'est
faisable? Je pense qu'il y a deux composantes à l'orage. En fait, d'abord, je pense qu'il faut commencer par comment est-ce qu'on détecte les exoplanètes. On arrive à détecter des exoplanètes de manière générale par ce qu'on appelle les méthodes indirectes, c'est-à-dire qu'on va regarder l'étoile autour de laquelle tourne l'exoplanète et en regardant les modification de la lumière de cette étoile, soit la planète peut passer devant et donc on va avoir un manque de luminosité, un déficit de lumière périodique, c'est-à-dire très régulier de l'étoile et donc et ben ça veut dire que quelque chose passe devant et donc c'est une des façons, ce qu'on appelle la méthode des transits planétaires, qui est une des façons principales de détecter des exoplanètes. Et une deuxième, c'est d'utiliser de la spectroscopie, c'est-à-dire de décomposer toujours la lumière de l'étoile, d'en faire un arc-en-ciel, c'est-à-dire de la séparer par couleur. Et si on fait ça de façon extrêmement précise, on peut récupérer des indices de composition de cette planète. Et on peut commencer, si on va dans l'infrarouge, en particulier ce qu'on appelle l'infrarouge thermique, qui est le domaine de longueur d'onde qu'explore le James Webb Space Telescope. Si on va dans l'infrarouge, ce qu'on va pouvoir repérer en particulier, ce qui est particulièrement intéressant pour les exoplanètes, c'est les émissions de la chaleur. C'est-à-dire que nous, qui sommes à peu près autour de 35, 37 degrés en surface, surtout qu'ici il fait chaud dans le studio, on émet des infrarouges.
Constamment.
Et donc on est un petit peu des ampoules, c'est-à-dire que si on venait ici observer en infrarouge la pièce, on nous verrait très clairement en train d'émettre, comme des ampoules. Et donc la planète, en particulier une planète chaude proche de son étoile, va émettre un rayonnement infrarouge qui va pouvoir potentiellement être détectable. Et donc ça, c'est une méthode de détection plus directe parce que on regarde principalement, on est même quasiment ébloui par le spectre de l'étoile qui est évidemment beaucoup plus puissant. Mais si on est suffisamment précis, et c'est ce que fait le James Webb Space Telescope, qui est extrêmement précis et qui a été conçu pour ça, on peut arriver à détecter directement la lumière de l'étoile.
D'accord.
Et donc c'est ça peut être potentiellement ça qui serait intéressant pour arriver à détecter des orages dans des exoplanètes. Déjà, la condition pour qu'il y ait un orage, c'est qu'il faut qu'il y ait une atmosphère. On sait que les planètes qui sont la majorité des planètes qu'on détecte aujourd'hui sont ce qu'on appelle des Jupiter chauds, c'est-à-dire que c'est des grosses planètes de l'ordre de Jupiter qui sont gazeuses et qui tournent très vite, sont très proches de leur étoile et donc sont chauffés par leur étoile. C'est des planètes qui peuvent aller jusqu'à à peu près 1000 degrés dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, ce qu'on appelle la surface. Mais la surface d'une planète gazeuse, ça a pas trop de sens, c'est un peu un abus de langage. Et donc, c'est des planètes qui sont très chaudes. On se doute qu'il y a énormément de choses qui se passent dans cette atmosphère. Mais déjà, arriver à détecter des composants chimiques dans cette atmosphère, c'est des signaux qui sont de l'ordre de la partie par million, c'est-à-dire que pour une unité de lumière que renverrait l'étoile, qui est le composant principal de la lumière, eh ben il faudrait prendre un millionième de ça, il faut être précis au millionième de ça pour arriver à détecter
correctement
ce qu'on fait le James Webb Space Telescope. Mais du coup, c'est déjà on arrive à détecter ça sur des surfaces qui sont tout autour de la planète, puisque c'est la partie de la lumière de l'étoile qui va être filtrée par l'atmosphère de la planète et qu'on arrive à traiter. En cas d'un orage qui serait localisé sur la planète, soit on verrait un éclair qui serait un pic d'émission.
D'émission à ce moment-là.
Mais je pense pas qu'on ait aujourd'hui, en tout cas, les précisions en photométrie, c'est-à-dire
quelque chose de beaucoup plus sensible au niveau des appareils de et, de réception. Quoi.
Exactement. Et par contre, ce qu'on sait, la deuxième chose qu'on sait, c'est qu'un orage va produire des molécules particulières, potentiellement des molécules ionisées ou des espèces chimiques ionisées. On pourrait imaginer, dans un cas un peu extrême, où il y a énormément d'orages sur la planète et que la planète serait couverte d'orages, qu'on verrait, c'est pas de la chimie qui apparaît, qui se passe en équilibre, c'est-à-dire au repos. C'est-à-dire qu'un gaz, quand il est inerte comme ça, il a une certaine composition et les composés à l'intérieur sont pas forcément très réactifs.
Oui.
On a une composition qu'on appelle une chimie d'équilibre. Si on vient forcer des processus à l'intérieur, c'est-à-dire on vient injecter par exemple un volcan qui va émettre et venir perturber ce système, c'est ce qu'on appelle une chimie hors équilibre. On sait que c'est pas quelque chose qui peut va s'estomper avec le temps. Si ça arrive de façon continue, ça veut dire ce qu'on appelle un forçage, c'est-à-dire que quelque chose vient introduire en permanence.
D'accord, en permanence quelque chose.
Ce qu'on appelle
chose,
de la chimie hors équilibre, c'est quelque chose qui doit être maintenu en permanence, sinon ça s'estompe.
D'accord.
Et donc l'orage peut, par exemple, fabriquer ce genre d'éléments de chimie hors équilibre si on arrive à les détecter. Potentiellement, si c'est vraiment quelque chose qui est global sur la planète, il y a des composés peut-être particuliers à certains types d'orages qu'on pourrait détecter par ce biais-là. Mais c'est de la spéculation. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque.
Tout un tas de tout un panel de nouveaux satellites, de nouvelles choses qui permettent de capter des informations, des données depuis ces exoplanètes. Toi, Florian, qui bosse du coup plutôt sur le domaine satellite, ça peut être quelque chose que des startups pourraient éventuellement développer. Quelle est la vision de l'Agence spatiale européenne, par exemple, pour le développement
Aujourd'hui, c'est pas des missions qui concernent les startups. Faire des missions d'exploration, donc le télescope spatial James Webb, c'est des centaines de des milliers de personnes qui ont travaillé pendant quasiment 30 ans. Donc on est sur des tailles de missions qui sont incompatibles avec une startup. C'est des genres de missions qui sont faites en Europe par des acteurs comme Airbus, comme Thales Alenia Space, qui savent aujourd'hui faire des grosses missions. C'est ces industriels là aussi qui font par exemple la constellation Galileo, qui est notre GPS européen avec aussi un industriel allemand. Donc les startups aujourd'hui ne travaillent pas sur ces énormes projets qui ont besoin d'une stabilité de l'entreprise sur parfois 15 ou 20 ans. Par contre, les startups adressent d'autres challenges plutôt vers la Terre aujourd'hui. Aujourd'hui, le suivi du réchauffement climatique, la mesure de montée des eaux, des images radar pour traquer les bateaux, tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites par des startups qui vont envoyer des satellites qui sont beaucoup plus petits, parfois qui font la taille d'une boîte à chaussures, mais au lieu d'en envoyer un, on va en envoyer une dizaine, voire une centaine, qui vont aller autour de la Terre et qui vont permettre de prendre plein de mesures pour voir les effets du réchauffement climatique, comme je disais, ou voir la montée des eaux, par exemple.
D'accord, ouais. Donc ça va être vraiment développer des choses à plus petite échelle, toujours innover dans un maximum de petites choses qui pourraient permettre de faire avancer après peut-être des choses beaucoup plus grandes, des plus gros projets. Alors j'imagine que de passer du coup de l'état de start-up ensuite qui a un esprit bien particulier à un esprit plus entreprise, on va dire, ou
c'est une façon différente de travailler, mais il y a une continuité. Effectivement aujourd'hui, on le voit, donc en Europe, on a eu cette vague d'entrepreneuriat un peu plus tard qu'aux États-Unis, un peu 10 ans après. SpaceX, c'est des fin des années 2000, où ça a commencé vraiment à décoller. C'est le cas de le dire.
Oui.
En Europe, c'est arrivé plus tard. Effectivement, on a les entreprises qui sont montées, donc en propulsion électrique, il y en a plusieurs, il y en a au moins deux en région parisienne, qui sont montées en 2015-2016 et qui aujourd'hui commencent à avoir 50, 60, 80 employés.
Oui.
Donc forcément, quand on est une start-up de 5 personnes au début, on peut vivre dans cette espèce de mythe du garage où on travaille à des heures pas possibles. Beaucoup de start-up.
Un peu fait Facebook, on s'imagine le film tout de suite.
Enfin,
moi,
c'est ça.
Quand j'entends le mot start-up et l'esprit très jeune avec... voilà, dans le film, je crois que c'est
Social Network.
Oui. Voilà, j'imagine tout de suite cet état d'esprit-là.
Alors les startups commencent comme ça. C'est pas toujours des jeunes. Hein, on travaille beaucoup avec des entreprises qui en fait sont fondées par d'anciens chercheurs ou d'anciennes responsables de chez Airbus. Donc des gens qui vont avoir déjà 10, 15, 20 ans d'expérience et qui se disent, tiens, avec mon expérience et l'avancée de la science que je vois, je vais réussir à faire dans une petite entreprise quelque chose que j'arrive pas à faire dans une grande, qui va être beaucoup plus dynamique. On a par exemple la startup The Exploration Company, qui s'est monté entre la France et l'Allemagne il y a un peu moins de 2 ans et qui dedans a beaucoup d'anciens de chez Airbus qui ont dit la structure d'Airbus fait que c'est dur de faire une petite mission parce qu'Airbus maintenant des Fast and Space va être très bon pour faire des grosses missions par exemple. Donc c'est plus dur de faire quelque chose de pas cher parce qu'ils ont beaucoup de process pour être sûr que ça fonctionne bien, alors qu'une startup elle peut plus se permettre d'aller plus vite et donc alors forcément si on va plus vite on prend plus de risques de que ça marche pas, mais ça nous permet aussi peut-être de faire des choses qui marcheront, et c'est ça des canaux d'innovation.
C'est un peu le problème du risque bénéfice, mais bénéfice en termes d'avancée ou technique ou d'innovation en fait. Oui. Savoir prendre un petit peu de risque en sachant qu'on a peut-être potentiellement, plus on prend de risque, plus on aura potentiellement quelque chose derrière qui peut être énorme. Et c'est un risque à prendre, c'est sûr, mais je pense que l'aventure, ça doit être quelque chose, c'est une forme d'aventure au final, et ça doit être quelque chose d'assez passionnant et de prenant, je suppose. Enfin, on a des auditeurs qui sont très certainement jeunes aussi, on a aussi des plus vieux, mais en tout cas, si ça peut inspirer les plus jeunes. Alors c'est quoi l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne exactement, et quelles sont les missions de cette agence spatiale exactement ?
L'Agence Spatiale Européenne, donc ESA, pour European Space Agency en anglais. Alors je laisserai Marine compléter si j'oublie des choses, mais on est l'Agence Spatiale de l'Europe, donc on est ce que la NASA est aux États-Unis, on est juste un peu moins connu parce qu'on n'a pas Hollywood en Europe pour faire des films sur nous en permanence, mais on n'est pas beaucoup plus petit, on a un budget qui est que, entre guillemets, 4 fois inférieur, donc on a quand même des moyens de faire des choses, et on gère énormément de programmes spatiaux en Europe pour les citoyens européens, ou par exemple les astronautes. Thomas Pesquet est employé de l'Agence spatiale européenne. Donc les astronautes sont gérés à l'ESA. On gère le GPS européen qui s'appelle Galileo. On a beaucoup de programmes d'observation de la Terre qui servent à comprendre le changement climatique, mais aussi comment poussent les forêts, comment comprendre la météo. On travaille en exploration. On a aujourd'hui beaucoup de missions d'exploration. On fait partie de missions sur Mars. On a la mission ExoMars qui partira en 2024, qui devait partir l'année dernière, mais avec un lanceur russe et les missions avec la Russie ont été interrompues.
C'était compliqué.
Un atterrisseur russe, pardon. On travaille sur de la science. Par exemple, on a beaucoup de satellites. On a en ce moment un satellite qui s'appelle Bepi Colombo qui est en route vers Mercure. On a un des 4 instruments du télescope spatial James Webb dont parlait Marine tout à l'heure qui est fabriqué en Europe. Donc on fait aussi beaucoup de sciences pour comprendre comment forment les planètes, d'où vient l'univers, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, enfin toutes les grandes questions scientifiques. Ensuite, l'ESA fait aussi des fusées. En Europe, on a le lanceur Ariane qui est très connu. Ariane et Vega sont 2 lanceurs qui sont développés sous l'autorité de l'Agence spatiale européenne, avec des financements de l'Agence spatiale européenne. Et enfin, on a une mission plus générale qui est un peu mon travail de stimuler l'écosystème spatial européen. Donc même quand des entreprises veulent faire du spatial qui nous intéresse pas entre guillemets parce que c'est pas dans nos missions, on va les aider à développer leur activité pour des raisons commerciales. Par exemple, faire que les startups soient conscientes. Par exemple, on a des entreprises en France qui veulent faire du tourisme spatial, c'est-à-dire que des touristes puissent aller dans l'espace. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. En France, on a des entreprises qui essaient de le faire sous ballon. Alors, le ballon, ça permet d'être plus lent, de profiter plus, puis aussi de consommer moins de carburant et d'avoir un bilan carbone moins important pour le tourisme spatial.
Qu'est-ce que tu appelles un ballon en fait ?
Une montgolfière qui va monter à 30 ou 35 km. On a entreprise qui s'appelle Zefalto à Toulouse qui veut faire ça, alors on n'y est pas encore, mais ça permettrait à 35 km, on voit le ciel noir, on voit la courbure de la Terre, et comme ça part sous une montgolfière spatiale, on consomme beaucoup moins de carburant que dans une fusée, c'est pour ceux qui ont cette sensibilité-là. Donc toutes ces startups-là, l'ESA ne mène pas, c'est des initiatives commerciales, mais on essaye de les aider au maximum l'ESA c'est quasiment 5000, un peu plus de 5000 employés avec beaucoup d'ingénieurs, alors on n'a pas que, on a aussi des avocats, des gens qui font du commerce, mais une expertise technique forte qu'on essaie de mettre au service des entreprises européennes.
Il y a une multitude de métiers, en fait, c'est vraiment c'est un microcosme au final, avec énormément de métiers où chacun aura sa mission. Il n'y a pas que du scientifique, on imagine très certainement comme ce qu'on voit dans les films à la NASA, où ils sont quasiment que des astrophysiciens.
En allant se brancher directement sur la supercalculateur. Non, alors à l'ESA et dans le spatial en général, quand on parle des entreprises, des grosses comme des grosses entreprises, des petites ou des laboratoires, on a des gens qui font de la science, c'est-à-dire qui vont vraiment chercher faire le scientifique ou la scientifique dans son laboratoire. On a des ingénieurs qui construisent des machines, on a des gens qui font des achats pour acheter les matériels. personnel, on a du personnel administratif, et on a des gens qui font des ventes ou du business pour acheter ou vendre des satellites, on a des gens qui font du droit, parce que, bah, que ce soit du droit des entreprises ou du droit spatial. Aujourd'hui, avec les débris spatiaux, on a beaucoup de questions de droit spatial. Donc, on a tous ces métiers qui sont représentés. Et même dans la technique, on pense beaucoup à l'ingénieur aérospatial qui va avoir fait une école, des écoles. On a de très bonnes écoles d'ingénieurs aérospatial en France. Hein, on a l'IPSA, l'ESTACA, Superaéro, qui sont très connus, mais on n'a pas besoin de faire ça pour rentrer dans le spatial, parce que dans l'espace, il y a besoin, dans le spatial, il y a besoin de techniciens, d'électroniciens, d'informaticiennes, et puis il y a aussi de la communication, effectivement, j'ai oublié tout à l'heure.
Si vous voulez connaître la suite de cet épisode, il va falloir aller sur la page Facebook « On n'est pas des Einstein ». Car aujourd'hui, c'était la première partie de l'épisode 8 sur RBAFM. La suite est disponible sur le site de notre podcast « On n'est pas des Einstein ». Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et accéder directement au site du podcast via un lien qui sera disponible. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à l'épisode 9 au mois prochain sur RBAFM et à très bientôt. Bonne journée.
Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
On n'est pas du tout des Einstein.
Oui, tout est relatif.
Au cœur de votre région, RBAFM Auvergne-Limousin.